le Lab U.
Les bibliothèques universitaires et Radio U présentent
Sciences et Société. Les parcs éoliens offshore sont-ils des projets de développement durable ? Le développement durable suppose de concilier des impératifs écologiques, économiques et sociaux qui ne convergent pas spontanément, y compris quand il s'agit de développer une énergie décarbonée comme l'éolien. Comment concilier des impératifs environnementaux planétaires et européens et des contraintes locales, contraintes environnementales, sociales et économiques? Comment mesurer des impacts, évaluer des dynamiques et mettre en place des systèmes de gouvernance et de compensation équitables et acceptables par toutes les parties prenantes? Pour répondre à ces questions, nous ferons dans ce premier numéro consacré à ce sujet un état des lieux, état d'avancement des projets, acteurs en présence et législation. Dans le numéro suivant, nous nous focaliserons sur les conflits potentiels et en cours, les enjeux et la façon de les mesurer et de les nommer. Dans un troisième numéro, nous décrirons les modes de négociation de ces conflits. Nous avons invité Julien Hay, enseignant-chercheur à l'UBO, économiste au laboratoire Amur, Gaël Guéguin, professeur de droit à l'UBO, juriste au laboratoire Amur, et Antoine Carlier, écologue à Ifremer au sein du laboratoire d'écologie benthique côtière. La parole à Gaël Guéguin sur le cadre juridique européen du développement de l'énergie éolienne.
Pour commencer, je pense qu'il est important de dire que les engagements européens ou nationaux qui sont souscrits sont d'abord des engagements internationaux. Ça remonte à 1992, Rio, grande convention internationale, puis protocole à Kyoto quelques années plus tard. Et donc les États, à l'échelle mondiale, prennent des engagements très importants de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre. Et à l'échelle européenne, ces engagements internationaux ont à la suite été relayés par ce qu'on appelle des paquets climat, des groupes de directives adoptés successivement en vue justement de rendre contraignants à l'échelle des États membres de l'Union européenne, ces engagements de réduction de gaz à effet de serre. Et donc il y a eu plusieurs paquets, le dernier c'est 2018. Ce qui est assez intéressant à souligner d'emblée, c'est que ces paquets énergétiques au niveau européen donc, doivent être naturellement transposés obligatoirement par les États dans leurs droits nationaux, mais surtout ont deux fondements en droit. Le climat, et donc cet engagement de tout mettre en œuvre pour réduire les effets des changements climatiques, et l'énergie. Et la dimension énergétique, c'est une dimension qui est fortement imprégnée de marché, avec l'organisation du marché de l'énergie qui, à l'échelle européenne, remonte à l'orée des années 2000, avec une ouverture à la concurrence, celle que vous connaissez aujourd'hui, ayant plusieurs propositions de prestataires pour vous vendre de l'électricité ou ayant la possibilité de la produire vous-même. Donc, ça n'existait pas avant. Ça, c'est une évolution notable. Et c'est sans doute là aussi, c'est ce que je disais en préambule à des collègues, une vraie difficulté de concilier à la fois ces engagements climat et ces engagements et ces fondements juridiques juridique énergie. Et on le voit bien aujourd'hui quand on voit les ambitions affichées au niveau national par les promoteurs au sein du ministère de la transition énergétique avec une forte appétence pour un 40-50% de renouvelables et un complément nucléaire à hauteur de 50%. Et les promoteurs de la transition écologique, intégrant la transition énergétique, qui, eux, ont en tête d'autres préoccupations, et notamment celle de la conciliation avec la préservation des espaces, les usages, etc. Et ça, c'est une vraie difficulté que l'on retrouve. Bref, cela étant rappelé, donc, la Commission européenne s'est fixé différents objectifs en relais à ses engagements internationaux. Et les derniers, c'est la neutralité carbone. 2018, neutralité carbone à l'horizon 2050. Donc, décarbonation totale de l'approvisionnement énergétique. Et en 2020, dans la foulée, il y a une stratégie pour les énergies renouvelables en mer. Et alors là, accrochez-vous, on porterait... Donc, actuellement, il y a 12 gigawatts. Donc, ça veut dire 12 000 mégawatts en mer. Saint-Brieuc, c'est 500. Donc, c'est 24 Saint-Brieuc. Considérant donc que l'on pouvait porter cela à 300 gigawatts en 2050, avec un intermédiaire en 2030 à 60. Donc, en 2030, on serait à 60, puis 300. Bon, ça semble un peu ambitieux, mais ça nous conduirait à avoir 600 parcs de la taille de celui de Saint-Brieuc à l'échelle européenne, en mer. Et je ne parle que d'éolien. Et donc ça requiert la bagatelle de 800 milliards d'investissements. Alors ces engagements européens sont ensuite transposés au niveau national et chacun des États va développer, il est obligé de développer sa stratégie. Ça, ça fait partie de ses engagements. Il doit développer également une programmation sa consommation d'énergie et donc développer ce qu'on appelle le fameux mix énergétique dans lequel il va dire il y a tant de nucléaire, tant de renouvelables, tant de fossiles, etc. Et donc, dans ce cadre-là, la France s'est montrée très ambitieuse. Là où l'Europe l'invitait à produire 32% de renouvelables dans sa consommation d'électricité, elle a porté l'ambition à 40%. Sachant qu'à terre, on rencontre quand même un certain nombre de difficultés à développer les énergies, les sources d'énergie qui pourraient le permettre. Et donc, il est apparu qu'en mer, on pouvait aussi finalement développer là un complément, certainement pas la majeure partie du renouvelable, mais un complément. Et donc, voilà les différentes sources de nos engagements. Internationaux d'abord, européens ensuite et nationaux, avec donc les stratégies pour l'énergie renouvelable, la stratégie pour l'énergie marine renouvelable et tout cela évidemment en relais de la LTE, la loi de transition énergétique de 2015 qui fixe la grande ambition de 40%.
On voit qu'il y a une belle ambition planétaire et européenne et française qui même en fait plus ce qu'on lui demande. Alors maintenant, pour voir, on commence à voir le paysage, enfin bon, c'est juridique, on voit un cadre, on voit des obligations, des engagements internationaux, européens et nationaux. On rentre, on descend un peu la focale, on va sur les acteurs. Donc alors, quels sont, monsieur Hay, Julien Hay, les acteurs économiques en présence, y a-t-il des acteurs non économiques, comment on les identifie? Et d'une manière plus générale, comment ils sont représentés. Alors, je tiens à noter que vous aviez votre modestie, vous disiez que vous allez parler à partir de vos recherches. Donc je le répète, vous parlez à partir de vos recherches, ce qui ne vous empêche pas quand même de pouvoir décrire ces acteurs. Et en l'occurrence, moi j'ai lu un article qui s'appelle « Quelle perception des acteurs du territoire à l'égard des impacts écologiques des projets de parcs éoliens offshore ?» Un article que vous avez signé, qui a été rédigé à partir de verbatim, c'est-à-dire de comptes rendus de réunions de différents acteurs qui sont en discussion, en négociation.
Pour répondre à votre question, effectivement, je vais m'appuyer sur ce travail auquel j'ai participé et qui a été essentiellement mené par une doctorante à l'époque et maintenant collègue Ali Fremer qui est Adeline Bas. Il s'agissait en fait d'étudier à travers l'analyse des verbatim lors des débats publics en lien avec quatre projets de sites, donc Fécamp, Courseul, Saint-Brieuc et puis Saint-Nazaire, en fait d'identifier qui étaient les acteurs qui se déplaçaient et prenaient la parole. On a étudié vraiment les prises de parole. Et donc c'était assez intéressant. On a étudié un millier, je crois, de verbatim, et on a ensuite cherché à catégoriser un petit peu ces acteurs en différentes catégories pour essayer d'identifier aussi des postures sur lesquelles on pourra peut-être revenir par la suite. Et ce qui est intéressant, c'est de dire voilà, un projet. Enfin, on parle ici de parc éolien offshore, donc au large et pas très loin du large en l'état actuel des technologies. Il est projeté donc d'installer un parc et donc, je dirais, d'impacter ou en tout cas de modifier un territoire partagé. En fait, on pouvait voir différentes catégories d'acteurs. Alors, la plus grande d'entre elles, la plus importante d'entre elles, c'est celle qu'on a catégorisée de citoyens, des personnes qui venaient en grande partie à ces débats pour essentiellement, je dirais, s'informer, pour prendre des informations techniques, en particulier au sujet des caractéristiques des parcs. Et on voyait clairement à travers leurs interventions qu'ils étaient en recherche d'informations, qu'ils n'étaient pas avec une posture, je dirais, soit pro ou anti. Anti-projet. Et puis sinon, les autres acteurs, eux, étaient plus directement, je dirais, concernés par les projets, concernés par les impacts du projet, se souciant des impacts possibles des projets. Donc, bien évidemment, il y avait à chacune de ces représentations des représentants des projets, donc les porteurs de projets en tant que tels, des catégories plus structurées, comme des catégories professionnelles du tourisme, par exemple, les élus, les pêcheurs, bien entendu. des usagers récréatifs qui donc ont le milieu côtier ou marin, je dirais, comme cadre récréatif. Et puis également les associations de protection de l'environnement qui donc faisaient valoir leurs intérêts et leurs enjeux lors de ces réunions-là. Alors, on a observé que certaines catégories, par exemple, étaient moins représentées à ces moments-là, à ces débats-là, en particulier les pêcheurs, quand on rapportait, je dirais, l'idée qu'on se faisait de l'impact ou des conséquences potentielles d'un projet sur leur pratique et qu'on rapportait ça, je dirais, à la fréquence de leur ou à la part de cette catégorie dans les prises de parole, qui était vraiment lilliputienne en comparaison. Ça nous conduit à penser que c'est des contacts avaient déjà été pris et en fait ces acteurs avaient déjà été intégrés dans la concertation en amont, avaient déjà été rencontrés en amont, étaient certainement mieux informés, auquel cas ils n'avaient pas forcément besoin de venir à ces réunions-là, ou alors leurs avis avaient pu être pris en compte, ou du moins le pensaient-ils, et ça les dispensait peut-être de venir prendre position à ces occasions. Donc voilà un petit peu ce que je peux dire, mais c'était assez intéressant de voir justement qui venait et qui était concerné par ce territoire commun. En fait.
Bon, maintenant je vais me tourner vers Antoine Carlier, donc écologue, pour parler des caractéristiques écologiques des zones de développement des parcs en Manche ou en Atlantique. Voilà, donc peut-être on peut aller sur les points critiques, c'est-à-dire quels sont a priori les principaux risques pour la faune, la flore, l'habitat, plus généralement l'environnement. Voilà, vous pourriez faire un tableau un peu des endroits où tout ça va se dérouler, quoi.
Oui, alors... Avant de dresser un petit tableau du contexte français, je pense que c'est bien aussi de rappeler... Le contexte plus large européen, mais aussi international. En France, on considère encore souvent les parcs éoliens offshore comme une activité nouvelle. Mais la première chose qu'on peut dire, c'est que des éoliennes en mer, en Europe, il en existe déjà 6 000 implantées et raccordées aux différents réseaux. Ailleurs dans le monde, il y a des parcs éoliens en mer qui se construisent ou qui sont déjà en fonctionnement en Asie. Sur la côte est des États-Unis. Taïwan prévoit des projets ambitieux, le Japon également. Donc finalement, rien que si on considère la mer du Nord, le contexte européen, on peut déjà faire le constat que les projets EMR, c'est quelque chose qui date déjà de plus de 20 ans. Le premier parc, il a été installé au Danemark en 91. Et il y a même déjà des parcs qui sont démantelés, c'est-à-dire qui ont déjà atteint leur fin de cycle de vie normal, c'est-à-dire 25 ans. Et depuis 2015, en Europe du Nord, il y a déjà des parcs qui commencent à être déconstruits. Donc ça veut dire qu'on a déjà un recul d'expérience d'un cycle de vie quasiment complet de parcs éoliens. Donc ça c'est pour le paysage européen du niveau de déploiement de cette nouvelle activité humaine en mer. Où est-ce qu'on trouve ces parcs ? Dans la grande majorité des cas, c'est des éoliennes qui sont installées sur des fonds peu profonds en mer du Nord, des fonds meubles, des fonds sableux ou des fonds grossiers. Donc dans 80% des cas, c'est des fondations qui sont enfoncées dans les fonds marins, des fondations qu'on appelle monopieux, qui sont enfoncées sur plusieurs mètres ou dizaines de mètres. Cette activité arrive progressivement en France. Et en France, on a aussi des fonds majoritairement meubles dans la Manche. Donc il y a toute une série de parcs qui sont planifiés en Manche Est, en Manche Ouest. Mais on a quand même une particularité pour la façade atlantique, c'est qu'il y aura plusieurs parcs qui seront implantés sur des fonds durs, des bancs rocheux ou des fonds constitués de fonds durs, plus ou moins calcaires ou de différentes natures. Mais donc là, c'est déjà une petite particularité par rapport à ce qu'on peut connaître en Europe du Nord. Mais donc le message important, c'est qu'il y a déjà des acquis et un retour d'expérience important à considérer quand on cherche à regarder quels sont les impacts sur l'environnement marin. C'est vraiment important. sachant que évidemment tout n'est pas transposable et il faut évidemment regarder plus en détail quelles sont les espèces présentes sur les différents sites choisis pour la France et quels sont les risques associés. Mais on dispose quand même d'un socle de connaissances assez solide, je dirais, et plutôt rassurant à l'heure actuelle.
Vous avez décrit là le décor, enfin le sol, du sable ou des cailloux, ou du roche, de la roche. Je ne sais pas si on peut faire un résumé sur la faune, la flore, qui serait a priori en situation critique ou pas, enfin, sur laquelle il faut observer plus particulièrement. Hein.
Oui, alors concernant les risques pour la biodiversité marine, il faut considérer déjà deux phases. Pour ces projets en mer, il y a la phase de construction qui dure plusieurs mois, souvent deux voire trois ans, qui génère certains impacts importants, comme l'introduction de bruit sous-marin. On rajoute du bruit anthropique dans le milieu marin. Ça, c'est une des questions les plus prégnantes. Et ça va déranger certaines catégories d'animaux, des mammifères marins, des oiseaux aussi, certainement des poissons. Pour d'autres catégories d'animaux, comme des invertébrés benthiques, on ne sait pas très bien quels effets ça peut avoir, mais disons qu'on n'a pas observé de conséquences néfastes pour l'instant. Une autre catégorie d'impact, ça concerne cette fois-ci la durée de vie du parc, c'est-à-dire toute la phase d'exploitation qui va durer 20 à 25 ans. Et là, ce n'est plus des perturbations ponctuelles à court terme, ça peut être des perturbations qui vont s'étaler sur le long terme. Et là, on peut penser en premier lieu aux risques pour les oiseaux marins, les risques de collision avec les pales d'éoliennes qui tournent, mais aussi, toujours pour les oiseaux, des risques moins évidents, mais tout aussi importants à prendre en compte, c'est le dérangement, le fait que l'implantation d'un parc, ça peut détourner certains oiseaux de leur route de migration ou de leur aire de nourricerie privilégiée, par exemple. Alors, donc le bruit et puis les risques pour les oiseaux, c'est, je dirais, les deux principales interrogations environnementales, les deux principaux impacts. Ensuite, il y a des impacts que je mettrai au second plan, mais qu'il faut regarder quand même d'assez près. Il y a bien sûr le fait qu'on introduit une autre catégorie de substrats dans le milieu marin. On introduit des objets en béton, en métallique, donc c'est des substrats artificiels en fait. Et tous ces objets vont tôt ou tard se coloniser par tout un cortège d'espèces. Alors, est-ce que c'est des conséquences bonnes ou mauvaises pour l'environnement ? C'est pas très simple de répondre à cette question. C'est pas forcément des impacts négatifs. Il y a ensuite des questionnements qui touchent au fait que l'énergie électrique produite en mer, il faut la ramener à terre, donc par des câbles de raccordement. Et ça veut dire qu'on pose des câbles de très grande puissance sur les fonds marins. Et qui dit courant électrique qui transite dans un câble, dit génération de champs électromagnétiques qui peuvent potentiellement gêner certaines catégories d'espèces marines. On en connaît beaucoup qui sont sensibles aux variations de champs magnétiques. De là à dire qu'il y a des impacts négatifs, c'est pas du tout évident. Les connaissances s'améliorent beaucoup là-dessus. Il y avait quasiment rien dans la biblio il y a 10-15 ans. Et maintenant, on commence à mieux appréhender cette question-là. Et puis, il y a aussi des questions qui sont relevées lors des débats publics, comme le fait que les fondations d'éoliennes sont parfois protégées par des anneaux de sacrificiel. Et ça, par définition, ça va libérer dans le milieu de la pollution métallique, notamment de l'aluminium, du zinc. Donc ça, c'est aussi des questions à prendre en compte, notamment pour certains types de fondations qui sont dits les fondations de type jacket qu'on voit apparaître justement principalement sur les fonds durs quand il s'agit d'implanter des éoliennes sur un socle rocheux. Voilà, alors là j'ai parlé de risques a priori négatifs, bien que c'est assez subjectif la distinction entre bénéfique et négatif sur le milieu. Faut aussi prendre en compte des conséquences pour le coup potentiellement positives pour les écosystèmes. C'est le fait que parfois des parcs éoliens en mer sont complètement fermés à toutes les autres activités pour des questions diverses et variées. Et le fait d'interdire ou de fortement limiter la zone à des activités comme la pêche aux engins traînants, finalement, ça va avoir pour effet de, d'améliorer l'état écologique de certains fonds marins, notamment ceux qui étaient les plus, enfin, fortement dégradés avant l'implantation du parc. Donc il y a aussi parfois des effets clairement bénéfiques à prendre en compte.
Oui, on anticipe un peu, mais oui. Bon, là, on a le paysage, hein, on a un cadre juridique, on a des acteurs, on a les sols, les poissons autour et les éléments qu'on amène. Peut-être encore une question supplémentaire de type juridique, c'est ces zones ont déjà des statuts. Elles peuvent être parcs marins, elles peuvent être, je ne suis pas spécialiste du tout. Voilà, mais je pose la question donc à Gaël Guéguin Alouette. Quel est le statut des zones concernées? Là, on parle peut-être de Saint-Brieuc, de Saint-Nazaire, enfin Manche et Atlantique. Et quels sont les représentants de l'État sur la question éolien et la marge d'action, les marges d'action qu'il y a entre eux, élus locaux, associations, État?
Alors, il y a 14 parcs qui sont projetés actuellement. Et tous n'ont pas fait encore l'objet d'un dialogue, enfin d'un appel à candidature, si vous voulez. Mais depuis 2011, quand même, on a déjà attribué plusieurs lots à des consortiums. Sur ces 14 parcs prévus, envisagés ou programmés plus sérieusement, il y en a deux qui vont se dérouler en dehors de la mer territoriale, en partie. Donc la majorité des parcs qui sont projetés pour l'instant le sont dans la mer territoriale, c'est-à-dire entre le rivage et 12 000, un peu moins de 22 km, enfin un peu plus de 22 km, pardon, au large de nos côtes. Et pour le parc de Dunkerque et pour ce qu'on appelle le parc Manche, le méga parc là de 1 gigawatt qui sera au large, on va dire, de deux autres parcs, celui du Tréport et celui de Fécamp. Là, on va être en partie en ZEE, donc dans la zone économique exclusive qui prend le relais de la mer territoriale et qui projette donc les droits souverains de la France jusqu'à 200 000 des côtes. C'est deux statuts juridiques différents. En fait, dans la mer territoriale, on est chez nous. Schématiquement, c'est le territoire de l'État qui se prolonge en mer. Le sol et le sous-sol sont propriétés publiques. Donc ça appartient à l'État qui va donc délivrer des concessions domaniales. Hein. C'est ce qu'on appelle le domaine public maritime naturel. L'État va autoriser des promoteurs de projets à venir. Et ils vont payer ce qu'on appelle un loyer, hein, une redevance d'occupation, un leasing en Grande-Bretagne où on a le domaine de la couronne, l'équivalent. Donc, alors, ce zonage de la mer, entre la mer territoriale... Bon, je passe, hein, y a une zone qui s'appelle la zone contiguë. Ensuite, il y a la ZEE et ensuite, il y a la haute mer. Et en dessous, si le continent se prolonge, vous savez qu'on a le plateau continental. Mais en termes de régime juridique, nous, ce qui nous intéresse, c'est la mer territoriale et la ZEE. Donc là, la mer territoriale, je vous le disais, on est chez nous. Donc la propriété publique, l'État va exercer sa souveraineté. Au-delà, dans la ZEE, il n'est pas souverain pleinement. Hein, ce n'est pas chez nous. Mais on a des droits aux fins d'exploitation des ressources de la mer. Enfin, exploitation et conservation. C'est ce qu'on revendique d'ailleurs à l'échelle plus globale du globe, puisqu'on a une ZEE très importante, la deuxième au monde. Et donc en ZEE, on n'avait pas de cadre juridique pour permettre de développer des parcs. On en a depuis 2013, depuis le 13 juillet 2013. Donc on a un décret qui permet justement de développer ces parcs et qui organise évidemment le régime d'occupation, le prix à payer pour occuper cet espace, la gouvernance, qui va délivrer les autorisations. Donc ce sont les services de l'État dans le département après avis du préfet maritime et du conseil maritime de façade. Donc on a créé un cadre juridique sur mesure pour cet espace. La question que nous on se pose actuellement, les juristes, c'est comment pour les parcs qui sont à cheval sur les deux zones, on va combiner en fait le régime des autorisations. Voilà. Mais ce n'est pas encore évident. Mais ça va se réaliser. Mais est-ce qu'on aura deux sous-autorisations ou une globale qui intègre l'ensemble? Parce que ce n'est pas la même gouvernance, ce n'est pas exactement les mêmes droits. Mais le parc Centre-Manche, là, d'un gigawatt, et le parc de Dunkerque ne sont pas encore réalisés. Hein, donc, mais ce sont deux gros parcs, 1600 mégawatts entre les deux quand même. Voilà. Ce que j'ai à dire sur les zones. Okay, après, vous me disiez les représentants de l'État, c'est très simple, hein, c'est les services de l'État dans le département ou dans la région. Donc, c'est la direction départementale Terre-Mer, la DREAL pour l'environnement. On va également trouver... donc ça, c'est vraiment les centres d'autorisation avec un guichet unique. Hein, c'est le préfet, hein, le préfet de région, si on est à cheval sur deux régions, comme par exemple pour les parcs en Normandie, je crois. Quel parc est à cheval sur deux régions, je cherche. Possiblement, en tout cas, Saint-Nazaire. qui est effectivement sur la région Bretagne et sur la région... voilà, tout à fait. Sur la région de Loire-Atlantique, enfin, Loire-Atlantique, Pays de Loire. Ensuite, on va avoir également, ça c'est très important, la commission de régulation de l'énergie. Parce que je vous disais toujours ce dilemme, là, énergie-climat. La commission de régulation de l'énergie, c'est le régulateur de l'énergie en France. Et il est missionné par le ministre de la Transition énergétique pour organiser les appels à candidature, les, ce qu'on appelle les appels d'offres ou les dialogues concurrentiels aujourd'hui avec appel à candidature. Et donc c'est lui, le ministre lui demande, il élabore le cahier des charges, il le propose au ministre et il reçoit les candidatures, répond aux questions pendant le délai de la procédure, propose, et ça c'est très important, la liste des lauréats, et on sait depuis un contentieux que le ministre, Ségolène Royal, avait voulu se démarquer pour Saint-Brieuc justement du classement proposé par la CRE, puisque c'était également Éolien Maritime France, lauréat à Saint-Nazaire, qui avait emporté en réalité pour la CRE le lot, et pas Elle Marine à Saint-Brieuc. Et Ségolène Royal a décidé de changer le classement. Et donc, l'un des partenaires du consortium, qui était Nassé Wind Offshore de Lorient, a introduit un recours. Et, bon, on n'a pas changé le classement, mais le juge a dit, le ministre doit s'en tenir, non pas au classement, mais aux critères. Et les critères ayant été examinés par la CRE, voilà. Et donc, Nassé Wind a eu une indemnité substantielle qui lui a été versée. Voilà ce qu'on peut dire. Et après, évidemment, le gestionnaire du réseau, RTE, a également un rôle très important à jouer, puisqu'il va réaliser le raccordement à haute tension entre le parc et le réseau terrestre de transport. Voilà.
Les questions du public.
Je dirais sur la différence que l'on fait entre, par exemple, les projets éoliens et les projets nucléaires. Je m'explique. En matière de projet nucléaire, le président de la République semble avoir décidé. Enfin, c'est un discours récent. Hein. On est dans une procédure qui est tout à fait différente de la question, évidemment, c'est pourquoi. Et je pose ma deuxième question tout de suite, parce qu'elle est directement liée à ce que vous venez de dire. Dans l'exploitation d'un parc, donc quand il est en fonctionnement, si j'ai bien compris ce qui se passe au niveau européen, en général, les usagers habituels de la mer sont associés aux revenus des parcs énergétiques. Quoi. En France, on ne semble pas nécessairement s'orienter dans cette voie-là. Pourquoi ?
Alors, premièrement, il y a une grosse différence quand même entre le nucléaire et le renouvelable, puisque les centrales nucléaires actuelles ont été développées à une époque où on ne se préoccupait pas de participation, de concertation, etc. L'État autoritaire intervenait pour le bien-être commun et développait des centrales sans qu'on se soucie de leur démantèlement à terme, sans qu'on... Voilà, c'était une évidence, c'était synonyme des porteurs de progrès, de... voilà, donc on a complètement changé de paradigme avec le développement du renouvelable, puisqu'on avait dès le départ intégré qu'effectivement il fallait en discuter. Et le renouvelable en mer, a fortiori, parce que ça se combine, l'espace est sensible, naturel et objet de multiples usages. Donc voilà. Et en cours de procédure, d'ailleurs, pour le renouvelable, on s'est rendu compte qu'on avait mal boutiqué la procédure, puisqu'on avait initié un débat public après les résultats de l'appel d'offres. Donc on avait discuté de l'opportunité d'un projet quand on en avait déjà attribué les lots à des lauréats. Donc ça, ça a été modifié en 2018, d'ailleurs, aussi.
Oui, je reviens simplement sur la procédure, je fais allusion au projet de la ville de Saint-Brieuc, bien sûr. Dans mes fonctions à l'époque, j'ai participé à des réunions, je pense qu'à l'échelle de la façade Manche Atlantique, sous l'autorité du préfet de région et du préfet maritime, d'accord, où étaient impliqués un certain nombre d'acteurs, dont les acteurs économiques directement concernés, par exemple les représentants des marins pêcheurs, mais bien au-delà. Et donc, en fait, cette procédure de consultation a été très fouillée parce qu'elle a donné lieu, par exemple, à des nominations de charges et de mission payées par la région Bretagne, à la disposition des comités locaux des pêches. Donc on ne peut pas dire que ça fait longtemps en fait, que la discussion a eu lieu, en l'occurrence. Il ne faut pas oublier cette procédure-là parce qu'on a l'impression que maintenant, la procédure de discussion est très courte. Ce n'est pas vrai, en tout cas pour ce projet-là.
Non, mais je partage ton point de vue, Paul, mais je ne veux pas mettre d'huile sur le feu. Il y a une concertation très importante pour Saint-Brieuc, très en amont. Elle a été menée notamment sous l'égide de Nassé Wind Lorient. Nous avions le petit bouquin qu'a Julien sur la table, c'est un colloque que j'avais organisé à Brest en 2011. Et on avait une table ronde, comme ici ce soir, avec le président du comité local des pêches de Saint-Brieuc, qui défendait bec et ongle l'idée de ce parc. Hein, il n'était pas du tout réfractaire comme aujourd'hui, mais il n'est plus là. En fait, ceux qui aujourd'hui sont indignés, et on peut les comprendre, ce sont d'autres pêcheurs qui ont succédé souvent à ceux qui étaient là à l'époque. Le temps de la construction d'un parc est tellement long que les personnes qu'on a pu convaincre, informer à une époque, ne sont pas là aujourd'hui, ou ne sont plus là, ou ne sont pas toutes là. Et c'est là mais en grande partie. Et donc, voilà, il y a eu un délai très important entre la désignation du lauréat, la concertation préalable qui a été menée à l'initiative du maître d'ouvrage. Quand je parlais du débat public, moi, c'est tout ce qui est sous l'égide de la Commission nationale du débat public. Et sous l'égide de la Commission nationale du débat public, il y a le débat public et il y a aussi la concertation avec garant, possiblement. Hein, toujours contrôlé. Et ça, c'est quelque chose de très important. Je ne nie pas qu'il y a eu beaucoup de discussions, que les collectivités territoriales concernées, et particulièrement la région, ont mobilisé autour du projet, et que personne ne peut dire qu'en 2011, à l'issue de l'appel d'offres, on a découvert qu'il y avait un projet, ou quelques temps plus tard, au moment de la délivrance des autorisations. Le projet, il était là, et on le connaissait. Le premier parc éolien offshore en France a été autorisé en 2004 hein, à Velette-sur-Mer. Donc c'est pas, voilà, on n'a pas de...
Merci à Gaël Guéguin, professeur de droit à l'UBO, juriste au laboratoire Amur, Julien Hay, enseignant-chercheur à l'UBO, économiste au laboratoire Amur, et Antoine Carlier, écologue à Ifremer au sein du laboratoire d'écologie benthique côtière. Nous les retrouverons dans le prochain numéro pour aborder les conflits potentiels et en cours, les enjeux et la façon de les mesurer et de les nommer. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur le site de Radio U et sur la page des bibliothèques universitaires de l'UBO. Le Lab U.
Les bibliothèques universitaires et Radio U présentent
Sciences et sociétés.